Les matins débutent avec le journal de Clara Lecoq-Réal. Bonjour Clara.
Bonjour Guillaume, bonjour à toutes et à tous. Un chômage partiel de longue durée entrera en vigueur le 1er juillet prochain. Voici l'arbitrage d'Emmanuel Macron qu'il a expliqué hier soir aux organisations syndicales. Nous vous en détaillerons les contours dès le début de ce journal.
Et vous comprendrez ensuite qui est Tyler Villus, parmi les premiers Français à avoir rejoint la Syrie et le groupe État islamique. Il est jugé aujourd'hui à Paris.
Et puis nous irons en Russie à l'aube d'une première journée de référendum pour réformer la constitution russe. Vladimir Poutine a tout prévu pour rester au pouvoir. Après cette édition, Guillaume, quelle sera la question du jour ?
Eh bien, que changerait la limitation de vitesse à 110 km/h sur autoroute ? Nous la poserons, cette question, à Mathieu Flonneau. Il est historien, maître de conférences à l'université Paris 1, Panthéon-Sorbonne et à Sciences Po.
La concertation veut sauver l'emploi. Mais avant d'évoquer l'emploi des jeunes, le travail détaché ou la formation professionnelle, c'est bien pour sauver l'emploi existant que l'exécutif se penche sur le chômage partiel. Un dispositif classique, mis en place massivement depuis le confinement et qui devrait durer encore un peu. Car un chômage partiel de longue durée sera créé sous couvert d'accords collectifs au sein de l'entreprise ou de la branche. Emmanuel Macron l'a annoncé hier aux partenaires sociaux. Annabelle Grenier nous explique. Explique tout cela.
Ce n'est qu'à partir du 1er octobre que le chômage partiel de droit commun que connaissent aujourd'hui environ 8 millions de salariés va baisser. Jusqu'ici, ils percevaient un minimum de 84% de leur salaire net pour les heures chômées. À l'automne, ce minimum va descendre à 72% pour les salaires au-dessus d'1,3 fois le SMIC, quand pour les salariés au SMIC, il sera maintenu à 100%. Côté employeur, l'État prendra en charge 60% de ses indemnités contre 85% aujourd'hui. Cette prise en charge durera 3 mois, renouvelable une fois et à condition que leur employeur maintienne les emplois. Concernant le chômage partiel de longue durée, le dispositif ARM, il s'adresse aux entreprises durablement touchées par la crise comme l'aéronautique, l'automobile ou encore le tourisme. Il pourra durer jusqu'à 2 ans par phase de 6 mois renouvelables. Selon cette nouvelle formule qui sera accessible dès le 1er juillet, les salariés concernés toucheront 70% de leur rémunération brute. Le mécanisme ne peut toutefois être instauré qu'avec la signature d'un accord collectif d'entreprise ou de branche. L'État financera 85% de cette indemnisation. Enfin, le nombre d'heures susceptibles d'être chômées ne peut être supérieur à 40% du temps de travail. Emmanuel Macron a souhaité également que le temps non travaillé soit dédié à la formation, une formation dont l'État pourra prendre en charge jusqu'à 80% des coûts pédagogiques. Ce nouveau dispositif, inspiré d'un texte de la métallurgie, lui-même copié sur le modèle allemand, vise à offrir au patronat une alternative aux suppressions d'emplois, mais aussi conserver les compétences au sein des entreprises.
Voilà donc qui devrait officiellement éviter des licenciements, officiellement seulement, car les entreprises pourront à la fois bénéficier de ce dispositif de chômage partiel et annoncer dans le même temps des licenciements. Ces aides de l'État pour payer les salaires ne sont pas contraignantes. C'est ce que regrette ce matin François Omeril, le président de la CFE-CGC.
Dès l'instant qu'il n'est pas inscrit dans la loi qu'il est interdit de licencier pendant qu'on fait appel aux deniers publics, il nous semble que effectivement, ça jette un large soupçon sur l'efficacité réelle du dispositif et qu'il est probable qu'il générera ce qu'on appelle des effets d'aubaine, c'est-à-dire des surdépenses, des surconsommations d'argent public, là où les entreprises poursuivent d'autres objectifs que de sauvegarder l'emploi.
C'était François Omeril de la CFE-CGC, même crainte également du côté de Force ouvrière et de la CGT. Pour les soignants, le gouvernement avait promis de mieux les rémunérer après la crise du nouveau coronavirus. Eh bien, le ministre de la Santé, Olivier Véran, dévoile l'enveloppe qui est prévue à cet effet. 6 milliards d'euros pour les EHPAD, pour l'hôpital, mais aussi pour le secteur privé. Tout cela pour le personnel non médical, c'est-à-dire hors médecin. Les négociations du Ségur de la Santé ont débuté il y a un mois et doivent prendre fin à la mi-juillet. Il a déçu les députés qui souhaitaient connaître son sentiment sur l'avenir de l'épidémie de Covid-19. Didier Raoult n'a, lors de son audition hier, qu'étrillé la gestion de la crise par les autorités et les conflits d'intérêts dans la recherche, s'en prenant surtout aux mauvais conseils de certains médecins auprès de l'Élysée, regrettant aussi que les tests de dépistage n'aient pas été généralisés. Le chercheur marseillais était donc auditionné par la commission d'enquête de l'Assemblée nationale. Il n'a pas donné son sentiment sur l'avenir de la de la Covid-19 et du nouveau coronavirus. Nous y reviendrons plus longuement dans le journal de 7h30. Avant cela, penchons-nous sur celui qui, selon les enquêteurs, aurait dû jouer le rôle d'Abdelhamid Abaoud comme coordinateur des attentats du 13 novembre 2015. Ce matin, devant la cour d'assises spécialement composée, s'ouvre le procès de Tyler Vilnous. Parmi les premiers Français à avoir rejoint la Syrie et le groupe État islamique, il avait été arrêté in extremis en 2015 alors qu'il tentait de revenir en France, vraisemblablement donc pour commettre des attentats, Charlotte Piret.
La scène se déroule en juillet 2015 à l'aéroport d'Istanbul. Un homme s'apprête à embarquer à destination de Prague. Son passeport suédois est authentique, mais la photo peu ressemblante. « Parlez-vous suédois ?» interrogent les policiers. « Non. » Le passager est interpellé. Ce Français de son vrai nom est Tyler Vilnous. Il vient de passer plus de 2 ans en Syrie et fait l'objet d'un mandat d'arrêt international. Car le jeune homme de 25 ans, originaire de Troyes, a fait partie des premiers à rejoindre les rangs de l'État islamique et à en gravir très vite les échelons. Policier, chef d'un groupe de combattants, membre de la brigade des immigrés, il a combattu, recruté, encadré des exécutions publiques pour l'organisation terroriste. Jusqu'à son départ, ce 2 juillet 2015, selon lui, pour fuir, les enquêteurs penchent plutôt pour un projet d'attentat, sans doute même celui du 13 novembre. Juste avant d'être transféré vers la France, Tyler Vilnous avait réussi à envoyer un dernier message vers la Syrie. « Ils vont pas m'enfermer définitivement, ça change rien. Quand je sors, j'agis. » Pour ce projet d'attentat, mais aussi, et c'est une première, pour les exactions commises en Syrie, Tyler Vilnous encourt la réclusion à perpétuité.
Et son procès se tient à Paris jusqu'au 3 juillet. Pas de procès en revanche pour 95 000 plaignants contre la firme Bayer Monsanto et son herbicide, le Roundup. Le plus gros producteur mondial d'engrais et de pesticides a accepté de payer, pour mettre un terme aux poursuites, un accord à 10 milliards d'euros qui n'admet donc aucune faute de la part de Bayer Monsanto, alors que le Roundup est toujours accusé de provoquer des cancers chez ses utilisateurs.
7h06 sur France Culture, la suite du journal de Clara Lecoq-Réal. Le référendum sur la réforme constitutionnelle russe débute aujourd'hui.
Oui, un vote populaire qui va durer jusqu'au 1er juillet, grâce auquel Vladimir Poutine espère redorer son image ternie par la crise sanitaire ces derniers mois. Pour convaincre et pour se maintenir au pouvoir potentiellement jusqu'en 2036, le président russe a donc utilisé un savant dosage de retouches politiques, de garanties sociale et de références religieuses, Claude Bruyot.
De la référence à Dieu et au mariage uniquement entre un homme et une femme pour flatter la fibre ultra-conservatrice, à l'indexation des pensions retraite pour la frange de son électorat la plus âgée, en passant par la sanctuarisation du territoire pour rassurer les nationalistes, à qui Vladimir Poutine promet implicitement de ne jamais rendre la Crimée à l'Ukraine ni les îles Kouriles au Japon, c'est un peu comme si le président russe avait voulu n'oublier personne. Un peu comme si Vladimir Poutine, en accélérant d'un coup le calendrier, craignait les effets de la crise sanitaire. Sans doute en raison de l'appréhension que suscite chez les votants le regroupement physique dans les bureaux de vote malgré les précautions annoncées, avec par exemple pas plus de 8 électeurs par heure et par lieu de vote, mais peut-être surtout parce que nombre d'habitants ont perçu aussi pendant 2 mois de confinement les limites de l'efficacité du pouvoir présidentiel. L'heure est surtout à la nécessité pour le président russe de réinitialiser son pouvoir par le biais de ses amendements qui ne risquent guère a priori d'être rejetés, à l'inverse de l'idée de plus en plus répandue dans la population, selon laquelle la remise à zéro des compteurs, voulue par Vladimir Poutine, signifie surtout que son maintien au pouvoir au-delà de 2024 est déjà quasiment acté.
Vladimir Poutine et sa réforme constitutionnelle, nous y reviendrons plus longuement avec Camille Magnard dans la revue de presse internationale tout à l'heure à 7h33. Le geste est fort, mais la décision n'est pas tout à fait une surprise. Donald Trump a annoncé hier le transfert de troupes américaines depuis l'Allemagne vers la Pologne. Le président américain l'a dit lors d'une visite de son homologue polonais à la Maison-Blanche. Envolons-nous à présent pour l'Allemagne et pour Francfort, car c'est là que se joue aujourd'hui le sort de la compagnie aérienne Lufthansa. Les actionnaires doivent approuver en Assemblée Générale Extraordinaire le plan de sauvetage de l'État, Nathalie Versieux.
Le plan âprement négocié avec le gouvernement fédéral et Bruxelles prévoit l'entrée de l'État au capital de Lufthansa à hauteur de 20% pour un montant de 9 milliards d'euros. La compagnie cède en échange 24 slots de décollage au départ de Francfort et Munich à la concurrence et supprime 20 000 emplois. Mais l'entrée de l'État au capital de Lufthansa est un cauchemar pour Heinz Hermann Thiele, nouvel homme fort de la compagnie. Le milliardaire jusqu'alors inconnu du grand public, s'est offert à la faveur de la chute des cours avec la crise du coronavirus 15% du capital de l'entreprise. Peu d'actionnaires ont annoncé leur venue à l'Assemblée générale d'aujourd'hui, si bien que Thiel, hostile au plan, pourrait décider de l'avenir de la compagnie. Lufthansa perd 1 million d'euros par heure depuis que ses avions sont cloués au sol, 2 milliards de pertes pour le seul premier trimestre. Les liquidités sont quasiment épuisées et le spectre d'une faillite inquiète autant les salariés que les usagers dont les vols ont été annulés au cours des dernières semaines.
Voilà pour un exemple des difficultés économiques liées à la crise du nouveau coronavirus, une crise qui se poursuit avec des contaminations en forte progression toujours de l'autre côté de l'Atlantique, notamment dans le sud des États-Unis ce matin. Et c'est pour éviter un éventuel reconfinement, une deuxième vague, que l'Italie avait décidé de ne pas rouvrir ses écoles lors du déconfinement. Les établissements scolaires n'accueilleront des élèves qu'à la mi-septembre et pas avant. Les modalités doivent être annoncées aujourd'hui et elles font déjà des mécontents, Bruce de Galzin.
L'école est la grande oubliée de cette crise. La ministre de l'Éducation est l'une des ministres les plus critiquées. Selon la principale association de parents d'élèves, elle se dégage de toute responsabilité en faisant tout retomber sur les directeurs d'école. Le gouvernement ne fait en effet que des recommandations. Diviser les classes en plusieurs groupes, réduire les cours d'une heure à 40 minutes, ouvrir les écoles le samedi, porter un masque au-delà de 6 ans, ou encore faire cours dans les gymnases ou les musées. Les premiers concernés, les directeurs d'école apprécie mal cette fausse autonomie car impossible d'accueillir tous les élèves sans ressources et personnel supplémentaire, estime Antonello Gianelli, le président de l'association des directeurs d'école, qui regrette aussi le flou entretenu sur les distances à respecter.
On ne peut pas seulement dire aux écoles « trouver un peu d'espace, inventer des choses à faire dans les musées ». On y va déjà dans les musées, là c'est toujours fait. Mais si les salles sont trop petites par rapport au nombre d'élèves, c'est un peu compliqué de les agrandir d'un coup de baguette magique.
Nombre d'écoles n'ont encore engagé aucun travaux. Si les recommandations sanitaires en restent là, 40% d'entre elles ne pourront pas accueillir leurs élèves à la rentrée.
Bruce de Galzin à Rome pour France Culture. Il fera toujours chaud ce jeudi avec un temps devenant lourd et orageux par l'ouest. Comptez ce matin 25 degrés déjà à Strasbourg, 26 à Lille et à Nice, 28 degrés à Paris, à Nantes et à Lyon.
Merci Clara Lecoq-Réal. Que changerait une limitation de vitesse à 110 km/h sur l'autoroute ? Réponse dans quelques instants. 7h12 sur France Culture.